De retour dans notre émission Point de repère hors piste, aujourd'hui nous nous penchons sur des images produites à la fin du Moyen-Âge, au 15e, 16e siècle, des images analysées par Elisabeth Lestrange, qui est chargée de recherche à l'Université de Liège dans le département d'histoire de l'art. Alors Elisabeth Lestrange, vous nous avez dit le type d'images que vous analysez dans votre ouvrage, mais le plus important c'est qu'est-ce qu'elles représentent, pourquoi ces images-là vous intéressent. Qu'est-ce qu'on y voit un peu systématiquement ?
Mais je me suis penchée sur les images de la naissance de la Vierge Marie, de Saint Jean-Baptiste et du Christ. Et dans ces images-là, j'ai remarqué qu'il y avait des femmes qui s'occupaient des femmes. Donc la Mère Sainte, elle est entourée d'autres femmes. Et dans un premier temps, je me suis dit, c'est très, très intéressant comme image, peut-être plus ou moins de l'époque. Les images représentent un endroit où les femmes s'en occupent d'autres femmes. Et voilà, qu'est-ce que ça peut nous apporter sur l'histoire des femmes, l'histoire de l'art. Et voilà, donc j'ai commencé à interroger ces images-là.
Alors justement, ce qui est intéressant déjà, vous venez de le dire, c'est que sur certaines de ces images, il n'y a pas d'hommes, ou parfois, ou ouais, alors ils sont sur le côté.
L'homme est souvent éloigné, ou il n'y est pas, donc...
Alors, pour bien comprendre l'intérêt de ce que vous allez trouver sur ces images, généralement, comment les interprète-t-on, ces images-là? Qu'est-ce qu'on y voit? Est-ce qu'il n'y a pas une analyse généralisée de ces images et qui découle en fait de ce qu'on imagine comme étant le rôle de la femme à l'époque? En partie justifiée.
Ouais. Hein. Il faut peut-être aussi préciser que ces images ne sont pas la naissance même d'un saint ou d'une sainte, mais c'est ce qui se passe après l'accouchement. Donc c'est souvent, comme on dit, postpartum. Mm-hmm. Et on a souvent utilisé ces images-là pour illustrer une histoire de l'accouchement, par exemple à la fin du Moyen-Âge. Donc, en ajoutant des images comme des photographies pour illustrer voilà, ce qui s'est passé à l'époque. Mais le problème, c'est que ce sont des images très, très répandues. Ce sont systématiquement la même chose, la mère qui se trouve dans son lit avec une ou deux femmes qui l'assistent, mmh. qui donnent le bain à l'enfant, qui amènent quelque chose à manger. Donc, ils sont d'une façon générique. Mais ils sont aussi intéressants parce qu'on peut tirer des relations avec ce qui se passait à l'époque.
Alors justement, quand on parlait tout à l'heure d'études de genre, alors l'étude de genre pour les continentaux européens, c'est pas toujours si connu que ça, c'est beaucoup plus développé dans le monde anglo-saxon. Ouais. Qu'est-ce que c'est exactement les études de genre, Elisabeth Lestrange? C'est des études qui se focalisent sur les rapports hommes-femmes, c'est ça?
Oui, les études de genre, c'est un champ énorme.
Ouais, ouais.
Et on peut dire que ça a changé depuis 30 ans. Donc on peut dire que dans les années 70, on a commencé à s'interroger sur le fait que les femmes sont absentes plus ou moins de l'histoire en général. Une histoire qui était écrite par les hommes, sur les hommes. Et donc, dans les années 60-70, donc on dit la deuxième vague de féminisme, qu'on a commencé à réinsérer ou insérer pour une première fois les femmes dans l'histoire. Donc, on se trouvait avec des women's studies dans les années 70. Et puis, ça a été de plus en plus nuancé parce qu'on commençait à dire, est-ce qu'on peut étudier les femmes toutes seules dans une bulle sans rapport aux hommes.
Absolument, absolument.
Et donc, on a commencé à nuancer. Donc maintenant, comme on parle de gender studies, on parle plutôt de les relations hommes-femmes et qu'est-ce que ça veut dire d'être masculin ou féminin et quelles sont les relations... Donc, si on va poser des questions sur qu'est-ce que c'est être une femme, on doit poser la même question, qu'est-ce que c'est d'être un homme?
Absolument. Alors justement, dans le cadre, dans cette époque, hein, 15e, 16e siècle, que ce soit les historiens ou que ce soit des études de genre, très souvent, en fait, les relations hommes et femmes sont décrites autour d'un binôme dont vous parlez dans votre ouvrage. C'est le binôme de l'autorité masculine et une femme soumise, en fait.
Oui.
C'est comme ça qu'on décrit la situation.
Oui, et donc, on dit souvent, on avait dit souvent dans les études de genre que, voilà, on a mis l'accent, si vous voulez, sur le fait que les femmes sont soumises à la société patriarcale. Et c'est bien, je suis que c'était bien le cas, surtout au 15e siècle.
Absolument.
On
ne
peut pas nier le fait que les hommes avaient plus de liberté économique et sociale que les femmes.
Absolument, ça c'est indiscutable.
C'est indiscutable. Mais il faut aussi chercher des moments où les femmes avaient les possibilités de réagir ou d'agir dans la société dont ils faisaient partie.
En fait, dans votre livre, vous découvrez des niches, des endroits où les femmes vont, à l'intérieur de cette société patriarcale et nul n'en disconvient, des moments dans leur vie où elles vont pouvoir s'aménager en quelque sorte un espace de liberté où, ouais. pour le dire autrement, où les relations homme-femme ou femme entre elles ou femme avec le reste de la société vont être changées. Et en l'occurrence, ces circonstances-là sont liées à la maternité, Elizabeth Lestrange.
Ouais. Donc j'essayais en fait dans le livre de trouver un chemin entre... Voilà, on peut dire d'un côté que les femmes sont complètement soumises à la société patriarcale et qu'ils devraient absolument donner naissance à un héritier. Et l'autre possibilité de penser, ce qui est de, voilà, de dire que voilà, non, les femmes pourraient réagir en se disant que voilà, si j'ai un enfant, ça veut dire que je suis forte. Voilà, c'est un peu simplifié, mais bon, il y a les deux chemins dans l'histoire et dans la critique actuelle, bon, il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Et dans mon livre, j'essaie de trouver un moyen entre les deux, donc un peu entre une étude romantique, disons que les femmes pouvaient absolument réagir contre les contraintes
de la domination masculine.
De la société, ou l'autre chemin qui dit que voilà, les femmes sont assujetties et voilà, c'est tout quoi. Et donc, avec la maternité, c'est quelque chose de très intéressant parce que on exigeait les héritiers à l'époque.
Donc, alors justement, ouais. avant de montrer en quoi ces moments de maternité et ces rituels postpartum, comme vous venez de le dire, vont un petit peu changer, modifier les rapports de
Exactement,
force, en fait,
ouais.
on peut le dire. Vous insistez souvent dans votre livre pour dire qu'il est clair que les femmes, et surtout les femmes qui faisaient partie d'une classe aristocratique, étaient soumises à des injonctions masculines parce qu'elles étaient nécessaires pour permettre une descendance. C'est ce qu'on appelle fournir des dynasties, en fait.
Ben oui, exactement. Oui.
Ça, c'était un de leurs rôles essentiels. On assiste même à des femmes qui sont rejetées parce qu'elles ne peuvent pas faire ce rôle-là.
Oui, exactement. Mais si on dit que c'était tout ce que ces femmes-là ont fait de leur vie, c'est d'avoir des grossesses et donner naissance aux enfants, et sans interroger un peu ce que ces femmes, surtout les femmes aristocratiques, parce qu'ils ont les moyens, par exemple, comme Anne de Bretagne, qu'est-ce qu'elle a fait en tant que mécène à l'époque? Donc, est-ce qu'elle a utilisé son rôle de duchesse et de reine de France pour favoriser ses intérêts
personnels. Et aussi défendre peut-être une certaine conception, notamment dans le rapport mère-fille? On va en parler dans la suite de notre émission, Elizabeth Lestrange. On se quitte encore un moment, le temps d'une pause musicale.